Deux Rois, chapitre 6, au début du chapitre. Et les fils des prophètes dirent à Élisée, « Tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, et nous y prendrons chacun une pièce de bois, et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. » Et il dit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens, je te prie, à venir avec tes serviteurs. » Et il dit, « J'irai. » Et il alla avec eux. Et ils vinrent au Jourdain et coupèrent des arbres. Et il arriva comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, « Hélas, mon maître, il était emprunté. » Et l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra l'endroit. Et Élisée coupa un morceau de bois, et l'y jeta, et fit surnager le fer. Et il dit, « Enlève-le. » Et il étendit sa main et le prit. Nous voyons ici les fils des prophètes. Dans un épisode un peu particulier. Alors, les fils des prophètes, nous les retrouvons plusieurs fois dans les Écritures. Et ce serait intéressant d'étudier ce comportement des fils des prophètes. Et nous voyons que la plupart du temps, lorsqu'ils sont ensemble, bien leur comportement n'est pas vraiment exemplaire. Pourtant, ils sont fils de prophètes. Il n'est pas dit qu'ils sont fils de faux prophètes. Et un prophète, c'est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Ce sont donc des jeunes gens dont les parents sont en contact avec Dieu. Et souvent, nous voyons que ces fils des prophètes ne sont pas obéissants à Dieu ou n'ont pas le discernement de la pensée de Dieu. Parfois, oui, quand l'expression utilisée est l'un des fils des prophètes, quand il s'agit d'une relation personnelle, mais en groupe, nous voyons ici les fils de prophètes dirent à Élisée. Alors ils viennent et ils parlent. Tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Alors ces fils de prophètes, on les trouve, par exemple, à l'enlèvement d'Élie. Lorsqu'ils parlent à Élisée, ils disent à Élisée, « Tu sais que Élie va être enlevé. » Et puis Élisée leur dit, « Je sais. » Ils sont à Jéricho à ce moment-là. Élisée leur dit, « Je sais. Taisez-vous. » Puis ils répètent, alors que le prophète leur a demandé de se taire. Ils continuent à dire, « Mais tu sais que Élie va... » Ils ont appris quelque chose qu'ils aiment bien répéter, mais qu'ils n'ont pas vraiment... assimilés pour eux-mêmes. Parce que lorsqu'Élie, ensuite, est enlevé par ce char et ses chevaux de feu, voilà ces mêmes prophètes, ces mêmes fils de prophètes qui arrivent, ils sont environ 50, il nous est dit, et ils disent à Élisée, mais peut-être que Dieu l'a enlevé, il l'a jeté quelque part, permets-nous d'aller chercher son corps où Dieu l'aurait jeté. Donc c'est déjà en contradiction avec les paroles qu'ils disaient. Maintenant, ils ont les pensées très liées à la terre. Alors il nous est dit qu'Élisée, ils ont tellement insisté qu'Élisée en avait honte. Il les a laissés faire. Ils ont perdu leur temps à rechercher quelque chose sur la terre, alors que Dieu avait enlevé Élie au ciel. Donc ils avaient cette prophétie qu'ils répétaient, Élie va être enlevé. Et pourtant, une fois qu'il est enlevé, il le recherche sur la terre. Donc on voit qu'il parle sans avoir vraiment compris la pensée de Dieu. Ils ont entendu quelque chose, ils le répètent. Ça, c'est un des exemples des fils des prophètes. Alors, un autre exemple, c'est quand il y a la famine dans le pays, elle nous est dit que les fils des prophètes étaient assis. Et puis, il y a le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit apporter une marmite. il dit à son jeune homme, on va faire de la soupe. Et qu'est-ce qui se passe? Ces prophètes sont assis, ils sont devant un problème, il y a une famine, ces fils de prophètes. Et puis ils sont inactifs, ils ne cherchent pas de solution. Et puis alors, mais il y a quand même un des fils des prophètes là qui décide d'aller chercher des coloquintes. Les coloquintes sont comme des petits potirons sauvages, mais c'est poison. Lui, il prend une initiative, mais elle n'est pas bonne. Il ramène des coloquintes, il les coupe en petits morceaux, il les prépare, il les jette dans la soupe, dans la nourriture. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La mort est dans la marmite. Comment se fait-il qu'un fils de prophète empoisonne les autres comme ça? Il ne savait pas ce qu'il avait mis dans la marmite. Il avait trouvé ça joli, et voilà qu'il empoisonne tout le monde avec ça. Peut-être que d'un point de vue spirituel aussi, on entend des enseignements étrangers. Oh, c'est intéressant, c'est joli, c'est bien dit. On ne comprend pas vraiment la portée de ces faux enseignements. On les ramène et on la met dans la nourriture spirituelle des autres fils des prophètes de cette même génération. La mort est dans la marmite. Que faut-il? Il faut que le prophète y jette de la farine, qui nous parle de la parfaite humanité du Seigneur Jésus, de cette pureté de Christ, pour rendre la soupe, pour rendre la nourriture consommable. Alors, il y a quand même l'un ou l'autre épisode de la parole où un fils de prophète, l'un d'entre eux, a accompli des missions fidèlement, comme le Seigneur le dit. Mais ici, encore une fois, dans le groupe, on voit les fils des prophètes parler à Élisée. Tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Et voilà quelque chose qu'on peut parfois entendre de la part de gens qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont été mis en contact avec la parole de Dieu et avec les hommes fidèles qui ont présenté cette parole, comme dans ce cas-ci, le prophète. Ils disent, mais oui, on est devant toi, on vit avec toi qui est en contact avec Dieu, mais c'est trop étroit pour nous. On aimerait plus de liberté, on aimerait plus de largesse, de largeur, on aimerait plus avoir plus de liberté d'agir. Notons bien que, donc ce qu'on a compris, c'est que il ne suffit pas d'avoir été en contact avec des parents qui ont parlé de la parole de Dieu, comme des fils de prophètes, pour avoir compris le message profond et pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et tant qu'on n'a pas une relation personnelle, même en étant fils de prophète avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette relation personnelle, on ne comprend pas la pensée de Dieu ou on l'interprète mal. On a l'impression qu'on vit sous une loi. Souvent, on a entendu peut-être des jeunes ou des moins jeunes dire « Oh, on ne peut rien faire ici, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de faire ça, de faire ceci ou cela, parce qu'on n'a pas compris que quand Dieu ou quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas une loi contraignante, c'est quelque chose de bon pour nous, c'est quelque chose qui nous met dans la liberté au contraire. Quand le Seigneur demande de s'abstenir du monde, eh bien, ça nous libère du monde. Alors que si on n'est pas né de nouveau et si on n'a pas de relation avec le Seigneur, on comprend ça autrement. On dit, on ne peut rien faire. C'est trop étroit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 6, il enseigne, il parle de sa chair qui est comme un pain dont il faut se nourrir. Il parle de son sang, qui est comme une boisson dont qu'il faut boire. Elle ne parle pas de la scène à ce moment, elle parle d'autre chose. Elle parle de la nourriture au quotidien, qu'il faut se nourrir de Christ, il faut absorber qui il est. Et puis, il y avait beaucoup de disciples, il nous a dit qu'ils n'ont pas compris ces choses-là, parce qu'ils avaient leur pensée aux choses de la terre. Ils ne comprenaient pas le niveau spirituel de ce que le Seigneur leur enseigne. Et ils disent, ces paroles sont trop dures. C'est trop dur. Et il nous a dit, et beaucoup d'entre eux ont cessé de le suivre à partir de ce moment-là. Alors le Seigneur se tourne vers ses disciples et leur dit, et vous, Vous voulez aussi partir ? Et puis Pierre dit dans une très belle réponse, auprès de qui nous en irions-nous ? Nous savons et nous croyons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles que beaucoup estiment être trop étroites, trop restrictives, ce sont des paroles de vie. Quand le Seigneur me demande ou te demande de faire ceci ou cela pour lui, c'est une parole de vie, c'est pour que tu obtiennes la vie en abondance. Tu peux évidemment choisir de suivre la voie du Seigneur. Ça veut dire que tu renonces à autre chose. Toujours, choisir c'est renoncer. Quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Et alors, ce sera notre cœur qui va décider. Et si je suis le Seigneur Jésus, ou si j'essaie de suivre le Seigneur Jésus ou son enseignement, alors que j'ai le cœur occupé des choses du monde, oh, ça va être beaucoup trop étroit, ça va être beaucoup trop strict selon mon point de vue. Mais si j'ai un cœur pour le Seigneur, c'est la vie, parce que la vie, c'est la relation avec le Seigneur, une vie en abondance. Renonçant aux choses du monde, peu importe, de toute façon, il faudra bien y renoncer un jour, de force, ou quand nous partirons. Nous ne sommes pas ici pour rester longtemps. Alors ici, tu vois que le lieu où nous habitons devant toi, et pourtant c'est un énorme privilège ici, hein, ces fils de prophètes, non seulement donc ont entendu la parole de Dieu chez eux, mais en plus, ils sont devant le prophète. Ils habitent où nous habitons devant toi. Et le Seigneur peut nous donner d'énormes privilèges. Il peut nous donner des parents qui nous enseignent. Il peut nous donner aussi des contacts avec d'autres frères, d'autres sœurs dans l'assemblée, où nous habitons ensemble, où nous nous réunissons ensemble. Et puis il est dit, ben, c'est trop étroit pour nous. Moi, j'aimerais bien autre chose. Nous aimerions autre chose. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, et nous y prendrons chacun une pièce de bois, et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Alors, encore une pensée intéressante, on a envie d'aller habiter ailleurs. Et de, non pas d'habiter là, dans ce cas-ci, où l'Éternel a demandé d'habiter, ou a déterminé le lieu, mais où moi j'ai envie. Allons là-bas, nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Nous allons bâtir nous-mêmes. Voilà. Je n'ai pas envie que le Seigneur bâtisse ma vie, je préfère bâtir ma vie moi-même, et même ensemble, hein, on peut même se mettre d'accord. Nous allons nous préparer un lieu d'habitation qui nous convienne, plus large, moins à l'étroit. C'est marrant parce que c'était déjà, ici ce sont des gens du peuple de Dieu, mais c'est déjà le principe du discours de Babel. Allons et bâtissons-nous une ville. Alors que Dieu avait, dans la Genèse, demandé aux gens, aux hommes de se disperser pour habiter la terre tout entière, eux, ils ont la pensée inverse. Ils disent non, on va se réunir, on va se faire un nom, on va se bâtir une ville. Confusion, Babel. Ils seront obligés de faire quand même ce que Dieu a dit au départ. Mais il faudra qu'ils parlent des langues différentes. Dieu va mélanger toutes ces langues. Et ils vont se séparer l'un l'autre, ils vont en fin de compte quand même accomplir la volonté de Dieu, mais pas de cœur. Alors ici, nous revenons ici, c'est un peu différent. Ils disent, nous y bâtirons un lieu pour y habiter. On aime bien se bâtir sa propre demeure. Comme on aime bien, on met ça là, on fait ça comme ça, on modifie ceci ou cela. Alors il n'y a rien de mal à faire ça dans une maison physique, matérielle. Mais quand il s'agit de sa vie, de la maison spirituelle, c'est comme Dieu le veut, c'est comme Dieu l'organise, c'est comme Dieu l'agence. Et le prophète dit, allez. C'est très court comme réponse. Et vous savez, quand on pourrait dire ça aussi du Seigneur Jésus, quand on commence à faire des projets en le mettant un peu de côté, le Seigneur n'insiste pas. Le Seigneur n'a jamais obligé personne à le suivre et à lui obéir, même parmi ses disciples. Comme on l'a dit tout à l'heure, et vous, vous désirez aussi partir? Parce que le Seigneur ne veut pas retenir autrement que par notre cœur. Il ne veut pas nous forcer. Ce n'est pas possible de nous forcer à l'aimer, nous forcer à faire ce qu'il nous demande. Il ne le fera pas. Dieu a toujours laissé le choix à quiconque de lui obéir ou pas. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu nous aime et il s'attend à ce que nous l'aimions en retour. Allez. Et puis il y en a un Dieu qui dit: consens, je te prie, à venir avec tes serviteurs. C'est un peu, j'ai envie de dire, si nous faisons une application avec notre propre vie de croyant, de chrétien, c'est parfois le monde à l'envers. Plutôt que de suivre le Seigneur, on aimerait qu'il nous suive. J'ai tel projet, Seigneur, consent à me bénir dans cette voie que j'ai envie de suivre. En soi, il n'y a rien de mal. Je ne demande pas à vivre dans le péché. Je demande simplement à vivre comme ça me convient. Consent. Et nous voyons là la réponse, on pourrait dire, pleine de grâce: j'irai. Mais il n'y a pas de promesse. Le Seigneur dit « suis-moi ». Et nous savons que si nous le suivons, nous aurons de grandes bénédictions. Nous l'abandonnons parfois, mais lui ne nous abandonne pas. Et même lorsque nous prenons un chemin qui n'est pas celui, par exemple, qu'il a déterminé pour nous, il est là. Il est là. Peut-être nous marchons avant lui, consent à nous suivre, consent à me suivre et à me bénir dans cette décision que je prends. Bien, voilà, j'irai. Et il alla avec eux. Normalement, on devrait lire l'inverse. Nous allons avec le Seigneur. Et lui, c'est le Seigneur qui vient avec nous. Maintenant, dans l'Évangile, on trouve aussi que le Seigneur dit « allez ». Mais dans ce cas-là, c'est très positif. Il dit « allez, baptisez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, annoncez-leur tous les commandements que je vous ai donnés, hein, et je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle ». C'est un peu différent parce que là, c'est une mission qui nous est donnée de la part du Seigneur. Mais ici, ce n'est pas une mission, c'est plutôt le tas d'esprit qui dit: Seigneur, je prends cette voie, nous prenons cette voie, viens avec nous. Nous ne voulons pas vraiment vivre sans toi. Ça nous arrangerait que tu viennes avec nous. Et alors là, ils se mettent à l'ouvrage. Ils coupent des arbres. Ils ne sont pas inactifs. Et parfois, on peut être très actif pour son propre compte ou quand on a son propre projet. Mais il se passe quelque chose d'étrange ici. Ils sont en train de travailler. On peut imaginer que ce sont comme des haches. Donc il y a une pièce en bois et puis il y a une tête en métal. Et d'ici, ils abattaient une pièce de bois que le fer, donc comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Voilà là, le morceau de fer qui se détache, et ça tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand du fer tombe dans l'eau? Ça coule. Ça coule. Il n'y a pas d'autre façon. Et il est où, le fer, maintenant? On ne le voit plus. Et comment on récupère un fer qui est au fond de l'eau? Et à quoi il sert, ce fer, maintenant? À rien. C'était pourtant un outil utile qui devient inutile et introuvable. Et alors, il s'écrit, cet homme qui a perdu sa hache dans l'eau, il s'écrit, « Hélas, mon maître, il était emprunté. » C'était pas à moi. Et peut-être que parfois, on grandit, on évolue avec un outil, je parle d'un point de vue spirituel, que nous n'avons pas vraiment acquis. Une connaissance, l'enseignement biblique. On a entendu, à l'école du dimanche, on a entendu de ses parents, beaucoup de choses qui sont très utiles pour construire sa maison, d'un point de vue spirituel. Pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix dans la vie. On a entendu beaucoup de choses utiles pour construire, édifier, mais on ne sait pas à qui. Et si on ne se l'est pas acquis, un jour ou l'autre, ça ne servira plus à rien. Parce qu'on va le perdre. On va le perdre. Parce que si j'ai reçu l'enseignement biblique avec lequel je peux commencer à faire quelque chose, même si je ne suis pas encore converti ou encore né de nouveau, ça peut déjà être utile. Mais je vais le perdre parce que et ça va couler, et je ne pourrai plus l'utiliser, parce qu'à partir du moment où ça devient une question de choix personnel, tout ça ne me sert plus à rien. Si mon cœur n'est pas engagé, cet outil ne me sert plus à rien. Cet enseignement biblique que j'ai reçu, si je ne l'ai pas accepté pour moi, dans mon cœur, il ne me servira à rien. Et je ne pourrai plus rien faire avec. Il est perdu. Il était emprunté, ce n'est pas à moi. C'était la foi de mes parents, c'était la vie de mes parents. C'était peut-être la décision que ma grand-mère aurait prise et que j'ai vu qu'elle a prise dans sa vie et que j'ai essayé d'imiter pendant un temps. Mais au bout d'un certain temps, je le perds de vue. Mais il y a une ressource. Et ça, c'est très beau. Il y a une ressource. Hélas, mon maître, il était emprunté. Alors l'homme de Dieu parle. On pourrait dire le Seigneur parle. Quand on a un problème comme ça. Quel que soit le problème que nous avons, ou que nous puissions avoir, il faut s'adresser au Seigneur. Et lui, il a toujours une solution pour rétablir ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, où est-il tombé ? C'est toujours intéressant de voir comment Dieu pose des questions pour me faire comprendre ce qui ne va pas, la source, la racine de mon problème, la raison de mon problème. Où est-ce que à partir de quel moment dans ta vie, tu as perdu de ça de vue ? Est-ce que tu peux retourner à ce moment-là en penser dans ta vie et comprendre, me montrer où est-ce que tu as oublié, où est-ce que tu as perdu ce que je t'avais donné. Alors, il lui montre à l'endroit. Ben voilà, j'étais là, je faisais ça, puis c'est perdu. Et il n'y a pas de reproche dans ce passage. Ce qui est beau, alors Élisée coupa un morceau de bois. Donc Élisée, le prophète, qui représente et qui nous parle du Seigneur Jésus, il prend un morceau de bois et le jette dans l'eau, là où la hache était tombée, avait coulé. Et qu'est-ce qui se passe ? Il fit surnager le fer. Et à ce moment-là, là où le bois est tombé, eh bien, la hache revient à la surface. Et il lui dit, élève-le, étends ta main et il le prit. Alors, bien sûr, cela nous parle du Seigneur Jésus, de la croix du Seigneur Jésus, le bois sur laquelle le Seigneur Jésus a été crucifié. Si une âme revient véritablement à la croix, devant le bois sur lequel le Seigneur Jésus a été crucifié, tout cet enseignement biblique qu'on avait perdu va surnager, va revenir à la surface, va devenir une réalité que nous pouvons récupérer. Mais il faut encore le saisir. Il y a encore cet acte à faire. Vous savez, quand j'ai un peu connu ça, j'avais reçu beaucoup d'enseignements à l'école du dimanche, j'avais beaucoup reçu d'enseignements des frères et sœurs dans l'assemblée, de mes grands-parents aussi. Je parlais beaucoup du Seigneur et de la Bible. Pour moi, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Jusqu'au jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus dans mon cœur, pour mon sauveur personnel, lorsque je suis tombé sur mes genoux devant la croix, devant le Seigneur, et que je suis né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, alors je suis devenu un être spirituel, non pas seulement charnel. Et quand je suis devenu un être spirituel par la grâce de Dieu, et qu'il m'a donné le Saint-Esprit, alors tout cet enseignement biblique que j'avais tendance à oublier ou à négliger, il est remonté à la surface, comme quelque chose de très utile et de très beau. Alors on se rend compte, une fois qu'on est passé par la croix, que toutes ces choses-là, tous ces outils qu'on nous a donnés, ces outils spirituels, sont très utiles. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas juste s'en rendre compte. Il faut encore étendre sa main et le prendre. Il faut prendre ce que le Seigneur te donne. Il faut l'accepter dans ton cœur pour ton sauveur et ensuite, il faut prendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut le prendre, il faut le saisir pour ne pas le lâcher. Parce que je me souviens aussi, j'étais adolescent, je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, j'étais heureux d'être sauvé et je savais qu'un jour j'irais dans le ciel pour l'éternité. Mes péchés sont pardonnés, c'est magnifique. Après, on commence à lire la Bible, on se dit « oui, ça c'est bien, la parole de Dieu, c'est très bon. » Et puis on lit beaucoup de choses. Et puis très vite, on se rend compte « oulala, mais si je dois faire tout ça, ça m'engage. » J'ai pas... Alors le premier réflexe de la chair, c'est se dire « moi je ne prends pas ça. Je veux bien prendre le ciel, mais prendre la vie pour Christ sur la terre, travailler pour lui, on peut avoir un moment de retenue quand on comprend ça. Mais il faut pas. Il faut s'engager pour le Seigneur. Il faut prendre ce qu'il nous donne, pas seulement le salut éternel, il faut prendre aussi les outils qu'il nous donne. Il faut les prendre. Désormais, ils sont à nous. Ce n'est plus un outil emprunté, c'est un outil qui nous est donné en personne de la part du Seigneur. Et alors nous allons continuer à travailler, cette fois-ci non plus pour notre confort personnel ou nos pensées personnelles, mais pour servir et poursuivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Quelques mots en lisant dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lirons le verset 6 pour commencer. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Au verset 13. Or, ayant le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce, abondant par le moyen de plusieurs, multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, car si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Voilà simplement quelques réflexions, parce que il y a cette affirmation du verset 6, « Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. » Voilà donc une affirmation qui est donnée, que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui a fait luire dans nos cœurs la connaissance pour que nous puissions alors nous aussi faire resplendir cette gloire. Et voilà, c'est vrai que nous pouvons apprendre beaucoup de choses, il faut qu'elles soient visibles. Il faut qu'un moment dans notre vie, il y ait en effet cette manifestation de la connaissance par le reflet de la gloire du Seigneur Jésus. Et nous approchons, nous le savons, et combien de fois nous l'avons déjà entendu, les années passent sans doute, les générations même passent, mais nous savons que le retour du Seigneur Jésus approche. Et c'est justement ce reflet, cette lumière qui luit et la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons révéler ces choses. C'est par lui que nous pouvons parler. C'est par lui que nous pouvons faire connaître la pensée de Dieu. Et le verset 7 alors vient presque renverser un peu ces choses, parce qu'il vient nous dire « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. » Voilà ce que nous sommes, dans la faiblesse. Faible et souvent lassé. Et le Seigneur nous porte. Et dans ce cantique, à plusieurs reprises, il est parlé des mains du Seigneur Jésus. Et nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Alors, en effet, il peut y avoir des choses qui se réalisent. On a parlé des fils des prophètes. Sans doute, il y avait de grands prophètes en Israël qui ont manifesté la parole de Dieu, qui ont enseigné, qui ont réalisé des miracles, qui ont dû comprendre aussi eux-mêmes que ce n'était pas par eux-mêmes que les choses se produisaient. Il y a eu des découragements à un certain moment. Et l'Éternel a dû s'occuper de ses serviteurs qui se décourageaient pour leur rappeler que non, c'est l'Éternel qui agit. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas eux-mêmes. Ils n'étaient qu'un moyen. Et nous ne sommes que des moyens aujourd'hui. Nous sommes des vases de terre. Pourquoi ? Mais pour que l'excellence de la puissance soit de Dieu. Il faut qu'à travers nous, on puisse voir la personne du Seigneur Jésus. Qu'on puisse voir, à travers la personne du Seigneur Jésus, la puissance et la gloire de Dieu. C'est très important, en effet, de revenir à ces choses, parce que la connaissance enfle. On le sait, la parole le dit elle-même. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais il faut avoir aussi cette vision, cette pensée, d'abord, de notre faiblesse. Au verset 16, nous avons lu, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Il peut y avoir de la lassitude, peut-être à répéter les mêmes choses, à donner tous ces enseignements, à essayer de faire avancer et de dire, à quoi bon? À quoi bon quand on voit ce monde ? À quoi bon quand on voit la situation de la chrétienté aujourd'hui ? Mais si même notre homme extérieur dépérit. Ça, c'est ce que, je pense, tout le monde constate. Je pense qu'il ne faut pas être une grande intelligence pour voir que notre homme extérieur dépérit. Sans doute, quand on est jeune, on est encore plein d'imagination, plein de fougue, plein d'énergie pour faire de grandes choses, et on pense qu'on va pouvoir sans doute faire mieux que ce qui précédait. Mais au bout d'un certain temps, nous constatons que notre homme extérieur dépérit. Mais pourquoi ? Parce que de la même manière que nous avons lu au verset 7 qu'il faut que l'excellence de la puissance soit de Dieu, toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Voilà, en effet, Hervé a parlé de son expérience à lui-même, et nous en avons fait l'expérience nous-mêmes. Si l'homme extérieur, en effet, dépérit, l'homme intérieur, celui qui est en relation avec Dieu, il se renouvelle. Il ne grandit pas, il n'est pas différent, il est toujours le même, mais il se renouvelle. Nous revenons aux choses de commencement. Pensez à Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu à Ur de Chaldée, une ville là-bas sur le bord de la mer Rouge, je pense, ou en tout cas là-bas le long de la mer, et sans doute avec de nouveau beaucoup d'activités, beaucoup de richesses, beaucoup de connaissances, sans doute aussi, mais surtout aussi beaucoup d'idolâtrie. Et Dieu voit dans Abraham quelqu'un qui a un cœur droit. C'est un point important, cela. Parce que pour que notre homme intérieur soit renouvelé, il faut que nous soyons droits devant Dieu. Il faut reconnaître ce que nous sommes. Et Dieu aime avoir des hommes droits. David, Dieu le dit lui-même aussi, était un homme droit. Et pourtant, il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. On le sait, il a eu des expériences douloureuses dans sa vie. Il a eu aussi des faiblesses. Mais l'Éternel a conservé le royaume sur sa maison. Là, de père en fils, il y a eu cette conservation de ce titre de roi, de ceux qui étaient rois sur un territoire sans doute de plus en plus petit, mais ils ont gardé ce que l'Éternel a permis qu'ils gardent, ce titre d'être la famille royale. Eh bien, voilà toutes sortes d'expériences qui nous sont données. Revenons à Abraham. Il avait entendu la voix de l'Éternel. Ils sont remontés d'Ur à Charan. Ils se sont arrêtés. La famille s'est installée. Il a fallu sans doute un deuxième appel de Dieu, un rafraîchissement, pourrions-nous dire, pour qu'il, de nouveau, il se mette en route. Il n'y a plus que Lot qui va le suivre. Et ils s'en vont dans le pays de Canaan. Et là, Dieu va se révéler à lui à plusieurs reprises. Et nous savons que l'Épître aux Hébreux nous montre que la foi d'Abraham a commencé à Ur de Chaldée. Elle n'a pas commencé quand il a vu la révélation de Dieu en Canaan. Elle a commencé à Ur de Chaldée. Donc, elle commence quand nous rencontrons la personne du Seigneur Jésus. Mais après, elle grandit parce que Dieu se révèle, parce que le Seigneur se révèle en nous. L'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Et puis voilà, notre légère tribulation d'un moment. La parole a des expressions quand même assez particulières parfois, parce que aller rencontrer quelqu'un qui est dans la douleur, dans la souffrance, dans des moments difficiles, et venir lui dire notre légère tribulation d'un moment. C'est difficile de pouvoir parler de telles choses. Et pourtant, c'est ce que la parole vient nous dire, la légère tribulation d'un moment. Le Seigneur Jésus est passé par un moment. Dans ce moment que nous chantons, où notre iniquité fit peser sur ta tête un fardeau de douleur indiciblement lourd. les 3 heures de la croix. Un moment. Mais le Seigneur a été jusqu'au bout, a gardé sa place, a subi le jugement du péché à notre place. Notre légère tribulation d'un moment. Quelle est-elle par rapport à cette place que le Seigneur Jésus a prise? Opère pour nous en mesure surabondante. Opère, l'opération. L'opération qui se passe dans nos cœurs pendant toute notre vie. Il faut que nous puissions nous renouveler. Et c'est l'opération du Saint-Esprit. C'est l'opération du Seigneur Jésus. Ce sont les circonstances, ce sont toutes les choses que nous connaissons dans notre vie qui travaillent, qui opèrent. Elles opèrent pour nous en mesure surabondante. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a dans la mesure de Dieu une surabondance. Il y a toujours quelque chose en plus que nous ne pensons pas recevoir. C'est ce que Dieu donne. Ses mains, nous l'avons chanté dans ce cantique, ses mains restent ouvertes, ouvertes pour bénir. Et voilà la mesure surabondante, parce que le Seigneur Jésus a ses mains percées. On les voit. On sait que les disciples d'Emmaüs, qui avaient pris un mauvais chemin, on a parlé d'un chemin dans la prière, ils ont pris un mauvais chemin, s'en allaient de Jérusalem et ils s'en allaient à Emmaüs. C'était pas le bon chemin. Et comment est-ce que le Seigneur va se révéler à eux? Dans la fraction du pain. Ils vont voir ses mains percées. Quand le Seigneur est au milieu des disciples dans la chambre haute, il en manque un. Thomas n'est pas présent le premier dimanche. Alors, on se l'est souvent déjà rappelé dans notre assemblée ici. Ils vont dire à Thomas, mais nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Et le Seigneur, la deuxième fois, va se présenter là. Et Thomas se dit, ben oui, il faut que j'y sois aussi puisqu'il voit le Seigneur. Et le Seigneur va lui parler à lui de façon tout à fait personnelle. Viens mettre ta main. Viens voir mes mains. Viens voir mon côté, viens voir ces douleurs que j'ai reçues, c'est moi. Voyez mes mains et mes pieds que c'est moi. Et il n'y a pas de doute, c'est la personne du Seigneur Jésus. Une mesure surabondante. Quand on considère les douleurs, les souffrances du Seigneur Jésus, on en reçoit une mesure surabondante, parce que le reste devient pour nous une légère tribulation d'un moment. Sans doute on souffre, on peut pleurer, on peut supplier le Seigneur, on peut entrer dans une sorte de découragement, même de détresse. Mais le Seigneur entend tout, il sait tout, et il peut répondre. Alors, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Voilà le travail. On a tous nos occupations, on a un lieu d'habitation, parler d'un lieu d'habitation, on en a tous un. Il faut l'entretenir, il y a des choses à faire. Nous occupons ici un lieu qu'il faut aussi entretenir. Et ce sont des choses qui se voient. Ce sont toutes des choses qui se voient et nous en avons besoin, sans doute. Mais il ne faut pas se fixer uniquement sur ces choses-là. N'étant pas fixé sur les choses qui se voient. Parfois, certains, malheureusement, ont du mal de détacher leur regard des choses qui se voient. C'est quelque chose que nous apprenons aussi dans notre vie avec le Seigneur. Mais nos regards, alors, étant fixés sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, le temps de la terre, le temps de notre vie ici-bas. On le répète si souvent, lorsque nous quittons cette terre, que nous fermons les yeux à la terre, si nous avons retenu quelque chose dans nos mains s'ouvrent et elles relâchent tout ce que nous avions. Eh bien, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Voilà cette part merveilleuse. Et nous sommes passés au-delà du verset 7 au verset 16, mais il y a là des expériences que l'apôtre lui-même pouvait dire, étant dans la, verset 8, étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit. On voit toute l'expérience de l'apôtre qui parle dans toutes ces expressions, dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Il se pose des questions, il est perplexe des choses qui lui surviennent, mais il n'est pas sans ressources. Le Seigneur est là auprès de lui. Persécuté, mais non pas abandonné. Dans une autre épître, le Seigneur s'est tenu près de moi. Tous m'ont abandonné, le Seigneur s'est tenu près de moi. Abattu, mais ne périssant pas. Oh, parfois, cette lourdeur de circonstances, des difficultés, mais non pas abattu. Parce que on se renouvelle, la force est là, le Seigneur intervient. Portant toujours partout, dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Si nous pensons à la mort du Seigneur Jésus, pourquoi elle est intervenue? Si nous portons, nous voyons que l'expression est forte, portant toujours partout dans le corps la mort du Seigneur Jésus. Voilà, ça doit être rendu visible dans nos vies que nous portons la mort du Seigneur Jésus. Nous pouvons parler de la mort du Seigneur Jésus. Eh bien, nous parlons par sa mort, nous parlons aussi de la vie. Parce que s'il est mort, nous sommes vivants. Nous sommes vivants dans le Christ Jésus. Car nous qui vivons, verset 11, nous sommes toujours livrés à la mort par l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Or, ayant le même esprit de foi que selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On sait que de nos cœurs doit déborder cet amour, cette connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Nous parlons pas nécessairement toujours de nos bouches. Nous pouvons parler par nos actes, nous pouvons parler par nos attitudes, nous pouvons parler par ce que nous faisons pour le Seigneur. Peut-être pas nécessairement envers une telle ou une autre personne, mais notre présence autour du Seigneur Jésus, nous montrons que nous avons quelque chose qui occupe nos pensées. Le monde parfois peut s'entretenir, peut exercer différentes activités. Il arrive toujours des lassitudes, il y a toujours des détresses, des tristesses, parce que ça ne va pas comme on l'espérait. Et les choses ne se passent pas comme on en a l'espoir. Mais pour nous, eh bien, il y a toujours ce renouvellement qui se fait. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà, en effet, nous avons toute ressource en lui, et toutes ces considérations nous montrent que, mais même pour l'apôtre Paul, ce fidèle serviteur, il y a eu de l'expérience qui s'est manifestée, qui a grandi, et il a pu aller jusqu'au bout de son chemin. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et pourtant, l'apôtre avait sans doute rencontré bien d'autres choses que ce que nous rencontrons aujourd'hui. Qu'il nous donne à nous aussi alors de pouvoir ne pas nous lasser, de pouvoir rechercher ce renouvellement par la lecture de la parole, par la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus, par cette communion que nous pouvons avoir entre nous dans sa présence. Et qu'ainsi nous puissions aller jusqu'au bout du chemin. Le chemin se termine bientôt et nous allons le voir sur la nue et nous allons être introduits par lui-même dans la gloire. Cette gloire que nous avons à manifester aujourd'hui, bien faiblement sans doute, eh bien, nous allons la voir dans toute sa beauté. Que le Seigneur nous encourage chacun.